Bonjour à vous toutes et vous tous, c'est Clotilde Seil avec vous sur les ondes de Canal M. Je suis très heureuse de vous retrouver. C'est la première de l'émission Le National, cette émission avec laquelle vous avez fait connaissance l'an dernier. Émission qui comporte des sujets d'intérêt pour tous les francophones au Québec et au Canada. Et c'est aussi une émission qui vous permettra peut-être de découvrir ou de réentendre des sujets ou des extraits d'émissions qui vous ont passionné dans la semaine. On commence tout de suite, tiens, puisqu'on parle de rentrée, avec l'émission de la rentrée à Canal M. C'était dans le cadre de M l'été, animé par Kevin Breton. Et autour de Kevin, il y avait Hélène Denis, Benoît Racette et moi-même.
Kevin Breton, toujours au micro de M l'été. Il y a beaucoup, beaucoup de monde en studio en ce moment. On teste même le Facebook Live. Donc, je salue les gens qui nous écoutent en direct sur Facebook. J'aurais peut-être dû mettre une chemise. Quand je dis qu'il y a beaucoup de monde en studio, c'est qu'il y a Hélène Denis qui est de retour en studio. Bonjour, Hélène.
C'est très beau comme ça.
Merci,
Kevin. Bonjour.
C'est gentil de me décomplexer. Je peux peut-être faire une vidéo description pour les personnes non-voyantes qui nous écoutent peut-être sur Facebook. Mais j'ai un simple t-shirt bleu rayé. Également,
très chaillant.
Également en bleu, Clotilde Seil.
Oui,
bonjour.
Oui, bah, oui, bonjour Kevin.
Ça va bien.
J'aurais su, j'aurais fait mon petit brushing.
Au bout du fil, lui, l'image, ça ne lui dérangera pas parce qu'il est par téléphone, c'est Benoît Racette.
Ah, oui.
Mais c'est dommage parce que pour le connaître, c'est toujours la personne la plus chic à chaque fois.
Oh,
Benoît
c'est vrai,
Racette.
Hein?
Il est toujours bien peigné, dépeigné, mais bien peigné en même temps. Là, c'est son style. Bonjour Benoît Racette.
Bonjour. Mais à l'époque où j'étais invité, il n'a jamais ça. C'est depuis que.
Ah, on vous perd.
Oui, vous voulez, c'est comme ça.
On vous a perdu, on n'a rien compris de ce que vous avez dit.
Vous m'entendez mal.
Mais là, on vous entend, Benoît, on vous a retrouvé.
Bon, alors, comme je le disais, merci. En fait, je vais l'ajouter, là, merci des compliments. Mais je suis sûr que vous êtes très beau, je ne vous vois pas encore, mais je suis persuadé que vous êtes beau.
Bon, si j'ai invité tous mes collègues ici en ce moment, c'est pas juste pour qu'on se dise qu'on est beau l'un et l'autre.
Non.
C'est pour
nous parler
de la prochaine programmation de M l'été. Donc, quand je de M l'été, je lui dis, en fait, l'émission termine aujourd'hui, M l'été, la prochaine programmation de Canal M commence la semaine prochaine. Quelques nouveautés. J'ai le goût de commencer avec vous, Clotilde,
oui.
Pour nous parler des livres Prends les oreilles, notamment,
oui.
Qui revient avec de nouveaux invités.
Oui, de nouveaux invités. Puis je dois dire que ça va commencer. C'est vraiment fort, cher Kevin et vous toutes et vous tous là, qui nous écoutez. On a enregistré hier la première émission qui sera un spécial Festival international de la littérature, un spécial fil et un spécial sur la soirée qui va avoir lieu au Noir.
Ouais.
Dégustation gustative, mais aussi on va s'en mettre plein les oreilles des textes parce qu'il y aura lecture de textes.
Par les auteurs ou...
Par des lecteurs bénévoles.
Par des lecteurs bénévoles.
Et donc hier, j'avais une brochette de monde ici. Et quand je dis que la lecture à haute voix, moi, pour moi, je mets ça... pour moi, c'est un art. Hein.
C'est
bien, hier, jugez-en par vous-même, j'avais deux anciennes voix radio-canadiennes du temps de la chaîne culturelle et d'Espace Musique.
Lesquelles?
Michel Keble et Gilles Dupuis. Il y avait aussi Sylvie Drapeau.
Oh, l'actrice.
L'actrice. Il y avait Béatrice Picard. Enfin, que du monde qui savent lire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça a été un moment, je crois. Hein, Mathieu était là hier. Non, vraiment, ne ratez pas ça. Ça, c'est l'émission du 14 septembre.
Pas manquer l'émission du 14 septembre également. Pas manquer cette soirée qui va se dérouler dans le Noir. Est-ce que tu as déjà participé à une soirée dégustation dans le Noir?
Jamais. Jamais, non? Parce que je pense que la claustro que je suis... Lui, il aurait du mal. Vous, les... Non,
jamais.
Mais si j'avais un conseil à donner, il paraît qu'il ne faut pas porter de vêtements blancs ou de vêtements qu'on souhaite conserver parce que c'est assez susceptible
de
se tacher. Semble-t-il qu'à la fin de la soirée, quand on ouvre les lumières, il y a du vin partout et sur les chemises et sur les nappes des tables. Mais il paraît que c'est bien plaisant, bien agréable et que ça éveille d'autres sens.
Oui,
en fait,
c'est ça.
C'est assez, au début, traumatisant de prendre une première bouchée de ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on ne voit pas. Mais après,
ils auront choisi.
Oui, on sait déjà ce qu'on va...
Pour cette soirée-là, oui, parce que déjà qu'ils sont dans le noir, déjà qu'ils vont entendre des mots, des textes lus par des voix comme ça qui vont arriver. Exactement.
Wow.
Vous savez, comme un aveugle, hein?
Mm-hmm.
Une personne non-voyante qui lit et qui écoute, tout d'un coup, il y a une voix qui lui arrive dans les oreilles. C'est la même expérience qu'on leur propose le 25 septembre.
Sinon, est-ce qu'il y a d'autres émissions à mettre pour des livres près les oreilles dans la
celle d'après, le 21, avec Antonine Maillet. qui sera en studio.
La Sagouine?
Oui, elle-même. Elle-même.
Oh, j'aurais jamais cru.
Vous que je travaille. Moi, j'oserais pas. Imitation. Il va y avoir un spécial jeunesse. Il va y avoir, en tout cas, je ne veux pas prendre trop de temps à mes petits camarades.
Mais on va mettre sur visevoix.com la liste des invités qui sont déjà confirmés.
J'aurais même Danielle Ouimet aussi, vous savez, la pulpeuse.
Oui,
la quand elle était jeune. Oui, mais c'est ça, parce qu'il en faut pour tous les genres et pour tous les goûts.
Voilà. À mettre à l'agenda des livres plein les oreilles. De retour avec Clotilde Seille. Je pense maintenant peut-être à Benoît Racette, là, quand Benoît, de retour à l'animation de Accès Libre à l'automne. J'ai très hâte de vous réécouter. C'était mon rendez-vous hebdomadaire que je ne manquais pas l'année dernière.
C'est trop flatteur. En fait, Accès Libre aujourd'hui est un peu sur la route. Veuillez m'excuser, je suis à l'extérieur, mais je serais content de reprendre la barre de l'émission. Vous le savez, on rencontre des décideurs, des décideuses, des militants, des militantes qui vont, disons, défendre les droits de tous et toutes et l'accessibilité. On continue avec ça, mais on va avoir quelques nouveautés cette année. Est-ce que vous avez envie d'en entendre parler?
Oui, oui, Benoît.
Oui.
Bon. OK, merci de votre enthousiasme. En fait,
c'est vrai.
C'est parce que j'avais la bouche pleine. C'est pour ça que j'ai pas pu dire oui, mais sinon, j'aurais dit oui.
Vous mangez des canapés, c'est ça?
Ouais, je mange tout ça, Benoît.
Donc, en fait, comme vous le savez, il y a des sujets d'actualité en début d'émission. Bon, juste pour vous dire au passage, la ministre des aînés et contre la maltraitance, Mme Francine Charbonneau sera des nôtres à la toute première émission. Mmh. Il y a aussi un spécial élection qui s'en vient en présence de Monique Vallée et aussi la chef de l'opposition qui brigue la mairie, Valérie Plante.
Ouais, ça va être un automne chaud hein, à Montréal et dans toutes les municipalités, là.
Mm-hmm. Voilà, exactement. Et on va bien sûr parler de l'accessibilité au travers des municipalités, parce que, bon, les élections, c'est pour tout le monde. Ceci dit, j'aimerais attirer votre attention parce qu'un des plaisirs à l'émission, ce sont les chroniqueurs. On en retrouve toute une gang et des nouveaux aussi. Et je voulais seulement les annoncer, ou plutôt des gens qui proposent des choses nouvelles. Donc, entre autres, Franck Bouchard, que vous avez beaucoup apprécié sur les questions du travail, nous propose maintenant une chronique sur l'habitation. Et on a même une nouvelle, une sexologue spécialisée pour les personnes âgées et en situation de handicap, Sonia Boucher, qui va venir une fois de temps en temps. C'est pas pire, ça, non?
Clotilde me fait des signes. Je ne sais pas si c'est la partie sexualité
non,
ou
c'est la
âgée.
Partie personnes âgées.
OK, d'accord. Bon.
Au large, mais on revient à l'organisation. Puis je vais faire de jeu de mots. Là. Mais donc, on proposait aussi toujours un segment qui s'adressait aux organismes communautaires qui nous écoutent. Et on a parlé de financement, de philanthropie. Maintenant, on va parler de tout ce qui est important dans une organisation. Oui. Comment on gère, recrute son CA, comment on mobilise, comment on évalue les résultats. Le Centre de formation populaire vient nous aider pour ce faire. Et il y a le retour de Laurent parce que je suis en présence de Clotilde que je suis pas capable de le dire.
J'ai jamais été capable de le dire non plus,
Laurent.
Mon petit Benoît.
Donc, Laurent Trétanier-Capistran, chronique juridique.
D'Execo.
Voilà.
Ouais, ouais.
Et il y aura des tables rondes aussi, des gens qui vont venir un peu plus en profondeur parler de thèmes chers aux personnes qui nous écoutent. Mm-hmm. Et je ne veux pas oublier non plus ces moments à la fin de l'émission où on entend soit de l'info sur les sports ou en fait des rencontres de personnes extraordinaires. On va rencontrer d'ailleurs des personnes aveugles qui ont de nombreuses réalisations, qui comptent sur de nombreuses réalisations, qui inspirent. Donc, on est proche de ce qu'on était avec des belles nouveautés.
Et quel sujet sera abordé avec la ministre, Benoît?
Bien, évidemment, c'est le plan qui a déjà été déposé en juin contre la maltraitance faite aux aînés. Je vais en profiter évidemment pour parler des personnes vulnérables de manière générale pour mieux comprendre l'étendue de la situation. La QDR vient aussi avec sa porte-parole principale. Donc, vous me connaissez, j'invite bien sûr un décideur, mais il ne faut jamais oublier les militants, militantes ou les défenseurs pour parler des thèmes. Alors, ça, c'est le premier thème de l'émission, oui.
Ouais, c'est surtout la force, je pense, d'Accès Libre de donner la voix aux militants qu'on entend peut-être moins dans les médias. C'est à suivre, donc, Accès Libre de retour à l'automne. Merci beaucoup, Benoît.
C'est un plaisir.
Salut Benoît.
Puis, je me tourne maintenant du côté d'Hélène Denis. Hélène, vous allez être de retour au micro de Canal M à l'automne.
Oui, moi je suis la petite nouvelle. Hein?
Oui, c'est ça.
Oui, nouveau défi. Alors, j'anime déjà les voies de service quotidiens du lundi au vendredi. Tous les jours de la semaine, je lis des articles, des chroniques, des éditoriaux tirés des quotidiens de partout au Québec. Une revue de presse très complète. Et ça, c'est du lundi au vendredi. Un autre rendez-vous. Cette fois, c'est la deuxième saison de cette émission qui était animée avec brio l'année dernière par Clotilde. Oui, j'en ai entendu parler. Non, je l'ai surtout entendu animer cette émission. C'est pourquoi je suis assez fébrile. J'ai hâte de casser la glace.
Mais
c'est un très beau
ça
défi pour moi.
Ça va bien se passer.
Merci, Clotilde.
Je suis tellement sûre que ça va bien se passer, là.
C'est vraiment une liste exhaustive d'à peu près tout ce qui se passe dans le milieu du handicap.
Oui, c'est ça.
Et par actualité, c'est un tour d'horizon vraiment complet, une source d'informations incontournable. Moi-même, quand je travaille chez Ami Télé, souvent, quand on voulait savoir ce qui se passait, on allait faire un tour du côté des paractualités. On savait qu'on allait avoir un résumé de la journée complète.
Bon, alors, je vous engage comme agent. Vous avez tout dit. Les paractualités, c'est un bulletin de nouvelles qui est consacré à l'actualité du handicap. Partout, on a des nouvelles de partout dans le monde, Montréal, les régions, le Québec au grand complet, des nouvelles de la scène canadienne. On s'intéresse à ce qui se passe aussi sur la scène internationale. Et il y a toujours deux entrevues par jour avec les intervenants, les acteurs de l'actualité du milieu du handicap, comme lundi, le 11 septembre, première de l'émission en ce qui me concerne, Mathieu Francoeur du mouvement FACE et aussi David Demers d'INCA, qui est l'Institut national canadien pour les aveugles.
Oui, ben oui, je connais bien David. Est-ce qu'il vient
de parler?
Ils sont très gentils.
Puis ils parlent.
Oui, c'est
une question,
une
puis ils sont partis.
Est-ce qu'il vient nous parler des fameuses lunettes eSight, David?
Ben, je vais leur poser la question.
On va leur poser la question.
On va leur en parler certainement. Alors donc, les voies de service du lundi au vendredi pour une revue de presse complète. Je pense que c'est la plus complète
au Québec.
Oui, au Québec. Et les paractualités du lundi au jeudi. J'ai Clotilde en face de moi. Vous pouvez me dire le mot cambronne, Clotilde?
Oui, mais je vous le dis.
Merci.
Il ne faut pas dire merci.
Ah non, c'est vrai. Mais vous n'avez pas dit le vrai mot cambronne.
Non, c'est vrai.
Cambronne.
Ah, oh, merde.
C'est pour ça que je me suis... Là, je ne vous dis pas merci. Je vous dis c'est gentil.
D'accord.
Merci beaucoup à vous deux. Puis je termine, moi, en vous parlant de moi, est-ce que vous me le permettez?
Oui. Alors, et vous, Kevin?
Et moi?
Parce que Kevin, quand même, disons-le, on est quand même drôlement content de vous avoir parmi nous.
Nouvelle émission, en plus.
Écoute.
Ben voilà. Tout d'abord, ça m'a fait plaisir de te remplacer le vendredi à l'émission M l'été. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec Sylvie, également avec Mathieu.
Chouette, hein?
Et puis également, je serai de retour au micro de Canal M tous les vendredis midi à 11h30 pour une émission de sport.
Hein.
Ça va combiner mes deux passions ou mes deux vocations. On va parler de handicap et de sport. Donc, on va parler nécessairement de sport adapté, de paralympique, mais aussi de la relation particulière qui unit le handicap et le sport. Le sport comme vecteur de changement social sur les plans individuels et collectifs à partir du 15 septembre. Je vais terminer en rappelant ceci et également en mentionnant deux autres émissions qui vont également faire partie de la grille horaire, Clotilde.
Mais le national, hein, qui va reprendre, parce que ça, ce sont vraiment des sujets d'intérêt nationaux et il ne faut pas oublier qu'on est écouté aussi à l'extérieur de la province. Alors, il faut aussi qu'on s'intéresse à tout ce qui se passe
d'un
là-bas.
D'un océan à l'autre.
Donc, le national, ce sera le vendredi juste après vous à midi, si... Non, attendez. Oui?
Oui, tu sais.
Moi, c'est ça, exactement, à midi.
Il y a tellement d'émissions.
Ben,
on a tous les détails sur le site Internet aussi.
Exactement.
Puis, j'ai pas mentionné le titre de l'émission Au Signal, que ça va...
Oui!
Ah, votre émission, vendredi
signal,
prochain.
Le magazine.
Et qu'on est fébrile.
Oui, moi, j'ai vraiment très hâte. Je pense que ça va être une très belle saison. Merci à Mathieu pour la mise en onde. Merci également à Sylvie pour la recherche. Puis, on vous dit à très, très bientôt et profitez bien des dernières journées de l'été.
L'INCA, autrement dit l'Institut national canadien des aveugles, va célébrer ses 100 ans, mes amis, en 2018. Dans le cadre des paractualités, le 11 septembre, Hélène Denis a rencontré David Demers, gestionnaire principal d'INCA, qui va nous parler de ce futur anniversaire et du rôle d'INCA dans la société.
C'est Hélène Denis qui vous accompagne et j'ai le plaisir d'accueillir David Demers. Bonjour, Monsieur Demers.
Bonjour, Hélène.
L'INCA. Alors, on dit l'INCA ou on dit INCA?
On dit INCA.
Alors, l'INCA, David, a récemment lancé un appel de candidature pour son conseil consultatif. Et David, vous êtes le nouveau gestionnaire d'INCA Québec. Vous êtes présent pour nous en parler. Rebonjour.
Merci.
Alors, vous êtes ici parce que vous êtes à la recherche de nouveaux membres.
Exactement. INCA célébrera prochainement ses 100 ans d'existence au Canada.
Prochainement, ça veut dire 2018?
En 2018, ouais. Oui. Et puis, pour lancer notre nouveau centenaire, nous déploierons un programme très ambitieux pour augmenter notre notoriété, notre visibilité, ainsi que notre capacité philanthropique pour être capable d'offrir davantage de programmes et services pour les personnes aveugles ou ayant une vision partielle.
Et puis, donc, vous êtes à la recherche de leaders de tous les horizons. Quel type de personnes recherchez-vous plus spécifiquement?
C'est vraiment très large. On va avoir un conseil consultatif très inclusif. D'abord, on cherche des gens qui vivent peut-être elles-mêmes déjà avec une perte de vision ou qui sont en contact avec des gens proches qui vivent avec ça. Mais ça va aller jusqu'à autant des étudiants, des parents, aller jusqu'à des PDG d'entreprise. Donc, on cherche des gens dans plusieurs champs d'expertise, autant la communication, relations publiques, les finances, en droit, événementiel, philanthropie. Donc, on cherche vraiment une gamme de gens qui représentent bien la population aussi.
Mm-hmm. Et ce sont donc des gens qui ont, j'allais dire du guts, mais ça ne se dit pas à la radio, des entrepreneurs, des créateurs.
Oui, exactement. Et dans le cadre de notre nouveau centenaire, on veut voir notre organisme un peu comme un organisme en démarrage. Il y a beaucoup de place pour l'innovation, pour développer des choses très originales. Donc, je pense que c'est une opportunité très intéressante.
Oui. Et pourquoi les gens devraient postuler, selon vous? Qu'est-ce que ça leur rapporterait?
Bien, en effet, on est un organisme solide qui existe depuis 100 ans, mais aussi, comme je disais, on veut être très innovateur, on cherche des nouvelles idées. Donc, on veut du nouveau sang dans le conseil qui va vraiment nous pousser vers quelque chose de nouveau, qui va changer ce que signifie d'être aveugle au Québec et au Canada, et même au travers le monde. Mm-hmm. Fait que je pense que c'est quelque chose qui va vraiment aider beaucoup de gens en besoin, et aussi, c'est une très belle expérience.
Oui, vous êtes bien placé pour en parler.
En effet, moi-même, je vis avec une perte de vision depuis 8 ans.
Mm-hmm.
Oui.
Et David, quel est le rôle d'un membre du conseil consultatif d'INCA? Il faudrait dire que INCA, pour ceux et celles qui ne seraient pas au courant, signifie Institut national canadien pour les aveugles, ici, secteur Québec. Là.
Oui, exact.
Alors.
Et puis, le rôle des membres est d'abord pour soutenir la direction générale, pour nous aider, en fait, aider moi à fixer les objectifs de INCA au Québec.
Mm-hmm.
Et puis aussi, les membres vont tous servir un peu d'ambassadeurs dans la communauté et dans leur domaine pour nous aider à faire connaître et aussi au niveau philanthropique pour nous aider à aller chercher du financement. Surtout, on va avoir des comités, plusieurs comités pour soit pour la technologie, pour la finance, pour les différents programmes et services. Et les gens vont nous aider à trouver des bonnes idées pour vraiment améliorer la qualité de vie des gens qu'on aide.
Alors donc, si un rôle au sein du CC, c'est trop exigeant, les personnes qui souhaitent s'impliquer peuvent se joindre à un comité.
Exactement. Ouais. Donc, ça peut être dans un comité où, en tout temps, on cherche aussi des bénévoles. Vraiment, il y a un gros manque de bénévoles pour nous aider à avoir des programmes et services.
Alors, si, justement, vous avez convaincu des gens, et je suis certaine que vous l'avez fait, de s'impliquer auprès de votre conseil ou auprès d'un comité, qu'est-ce que cette personne doit faire?
Alors, une personne qui est motivée à nous aider à changer ce que signifie d'être aveugle au Québec peut nous envoyer leur CV avec une courte lettre de présentation. Ça serait à Valérie Duchâtel. En fait, son courriel, c'est valérie.duchâtel@inca.ca.
Mm-hmm.
Mais vous pouvez également aller sur notre site web www.inca.ca pour avoir accès à l'appel d'offres également.
Jusqu'au 16 septembre.
Exactement,
oui. Midi.
C'est ça. Idéalement, on est un peu flexible, mais oui, c'est ça.
Alors, un grand merci, David, de vous être déplacé dans les studios de Canal M de Vues et Voix. On vous souhaite de recevoir plusieurs candidatures, évidemment. Et, chers auditeurs, nous vous invitons à postuler ou à en parler autour de vous. Il faut en parler pour faire connaître INCA.
Oui.
Et je vous rappelle le courriel valérie.duchâtel@inca.ca ou sinon sur le site d'INCA. David Demers, nouveau gestionnaire principal d'INCA Québec. Merci et à la prochaine, j'espère.
Merci beaucoup.
Et puis toujours dans le cadre des paractualités, on va retrouver Hélène Denis autour d'un sujet très très important pour les personnes amputées d'un ou de plusieurs membres. Une décision importante du tribunal administratif du Québec statuant que la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ, doit couvrir les coûts d'un membre artificiel jugé essentiel pour un Québécois amputé, crée un précédent pour les personnes amputées du Québec. Et Hélène Denis en a parlé avec Louis Bourassa, qui est directeur du programme des vainqueurs chez les amputés de guerre.
En studio, Louis Bourassa, directeur du programme des vainqueurs, les amputés de guerre du Canada, qui est ici donc. Bonjour,
bonjour.
Monsieur Bourassa. Vous êtes ici pour nous parler d'un cas d'une personne amputée qui a fait preuve de beaucoup de patience et surtout d'une décision importante du tribunal administratif du Québec qui crée un précédent pour les personnes amputées du Québec. Mais avant de nous parler de cette décision, pourriez-vous nous rappeler un peu le contexte lié à cette décision?
Alors, le contexte commence, la bataille commence il y a 4 ans. La personne a été amputée avant la suite d'un accident d'automobile et se voit prescrire par un médecin un type de prothèse. Et donc, l'agent payeur, la Société d'assurance automobile du Québec, refuse de défrayer ce type de prothèse-là. Les explications de la SAAQ ne sont pas vraiment claires, mais refuse de payer ce type de genou-là précisément pour avoir un genou qui ne sera pas avec un muni d'un microprocesseur. Pour des raisons de sécurité, on va peut-être avoir la chance d'en parler un petit peu plus tard, il était important d'avoir ce type de genou-là, mais la SAAQ refusait énormément, complètement. Mm-hmm. Alors, ce type-là est venu nous rencontrer et nous, on a un programme qui est l'équité pour les personnes amputées et on a décidé de prendre ce cas-là, si vous voulez, l'amener à bout de bras et aller au bout de tout le processus judiciaire, c'est-à-dire au tribunal administratif. Ce fut long, mais on a gagné cette bataille.
Ah, bravo. Alors, mais quelle a été justement l'implication, peut-être un peu plus de façon détaillée, de l'Association des amputés de guerre dans ce dossier-là?
Alors, il a fallu, la première chose qu'on a dû faire, qu'on croyait qu'il était bien de faire, c'était bien documenter la demande du professionnel de santé. Alors, il y a eu des visites chez différents types de professionnels de la santé pour être sûr que le dossier soit bien monté, que le genou qui était important pour cette personne amputée-là soit pas quelque chose de perçu comme futile ou en tout cas en filigrane, trop dispendieux ou des choses comme ça.
C'est un caprice.
Quasiment.
Ouais, ouais.
Alors, c'était pas ça. Nous, on a décidé simplement de bien documenter ça et de présenter ça. Alors, on est allé une première fois contre le refus de la SAAQ. On a essuyé un revers. On est allé une deuxième fois contre le refus de la SAAQ en bonifiant notre document. On a essuyé un refus. La SAAQ est allée, voulait entrer en médiation avec nous, ce qui nous offrait avec aucun... Ça ne correspondait même pas à ce que le professionnel de la santé voulait que la personne amputée. Alors, on s'est ramassé au tribunal administratif. Et là, c'est un peu complexe parce qu'il faut présenter. Alors, le juge, ce que le juge explique dans son jugement, c'est explique le rôle de la SAAQ. La SAAQ doit faire le mieux qu'elle peut. Là, je ne suis pas juriste, là, je vous traduis ça dans mes mots.
Ouais.
Elle doit faire le mieux qu'elle peut, tout en son pouvoir, pour que la personne redevienne le plus fonctionnelle possible. Et là, nous, on a démontré, en fait, les professionnels de la santé ont démontré qu'il serait beaucoup plus viable pour la personne amputée d'avoir un genou avec un microprocesseur.
Pourquoi?
Bien, voyez-vous, c'est pour les raisons de sécurité. Ces genoux-là sont auto-bloquants, si je me permets un petit terme, là. Mm-hmm. C'est-à-dire que si la personne n'a pas de genou avec microprocesseur, on s'imagine amputé. Moi, je suis amputé en bas du genou, mais amputé en haut du genou. Si on est pour tomber rapidement, les genoux, le genou à peinture de porte, si on veut, va plier et la personne va tomber. C'est un fait reconnu que les personnes amputées en haut du genou tombent beaucoup plus souvent que les personnes non amputées.
Alors, c'est ce genre de genou-là que vous vouliez... Pour cette personne-là. Est-ce que vous la nommez, cette personne-là?
Oui, c'est M. Lauzon.
Oui.
Et puis, elle a imaginé que c'était très étonnant de voir tout le temps ce refus-là pour des raisons de sécurité. Puis on se dit, écoute, c'est-tu pour des raisons financières? Parce que dans le fond, si ce type-là a une prothèse qui ne sera pas sécuritaire, à ce moment-là, il va y avoir chute. Là, on va remplacer la hanche, on va remplacer l'autre genou. Ça va coûter beaucoup plus cher que le genou avec microprocesseur. Oui. Puis après ça, on s'est demandé, c'est-tu parce que c'est de la haute, c'est, selon la vision du public peut-être, de la haute technologie, mais là, ça fait plus de 15-20 ans que ces genoux-là existent.
C'est un manque de connaissances, on dirait, je ne sais pas.
J'en ai conclu que la personne qui est sur le terrain, qui prescrit, le prothésiste certifié, lorsqu'il prescrit quelque chose, la personne qui est derrière son bureau administratif quelque part voit ça comme « Ah, c'est trop cher, on refuse » ou quelque chose comme ça. Alors, ce que le
pour
juge...
voir plus loin de son nez.
Voilà. Mm-hmm. Et aussi, c'est quand on entend le genou microprocesseur, on est pensé à...
James Bond,
Star Wars, des choses comme ça. Alors, vraiment, c'est pas ça. Et aussi...
On n'est pas dans la science-fiction, là. Ça existe. Il y a plusieurs personnes amputées qui possèdent ce genou-là.
Oui, et je vous dirais que c'est la norme un peu partout à travers d'autres pays. C'est la norme, ces genoux microprocesseurs-là.
Alors, je comprends pas pourquoi ça a été si long, cette bataille.
Ben, c'est 4 ans, hein, puis c'est beaucoup de temps.
Vous n'avez pas lâché le morceau.
On n'a pas lâché le morceau. Puis des fois, je me pose comme ça, comme question, tout l'argent que la SAC a investi pour aller contre la décision d'un professionnel de la santé, juste ce montant-là là, aurait permis à défrayer les microprocesseurs à toutes les personnes qui en ont besoin. Parce que ce n'est pas toutes les personnes amputées en haut du genou qui ont besoin d'un genou microprocesseur. C'est vraiment un professionnel de la santé.
Qui va décider si la personne... a besoin d'un genou avec microprocesseur ou pas?
C'est ça.
Ouais.
Puis nous, ce qu'on dit, c'est qu'à partir du moment où un professionnel de la santé de la même province, certifié prothésiste, dit que c'est ce type de prothèse-là que les personnes devraient avoir, de quel droit on peut commencer à argumenter ça?
Mm-hmm.
Alors, ce jugement-là va faire évidemment précédent, c'est-à-dire que tous les gens qui se voient refuser, dans ce cas-ci, un genou de type que le prothésiste a prescrit, bien peut-être que ce jugement-là fait un précédent, là. La SAC, quand on est entre les lignes du jugement,
ça
on voit
va faire réfléchir.
Oui, c'est ça. Avant que la SAC dise non, là, elle va devoir s'armer de nouveaux arguments. Parce que c'est très, très clair qu'il aurait dû défrayer ça à partir du début.
Bon, alors ça a bien fini. Ça a été long, mais ça s'est bien terminé.
Oui, ça a bien terminé, mais quelque part, en tant que citoyen, il y a quelque chose de frustrant là-dedans parce que la SAC ne... Tu sais, quelque part, toute l'énergie, tous les sous qui ont été dépensés pour aller contre un fait évident comme ça.
Oui, on se dit tout ça pour ça.
Oui, c'est ça. Ouais. Puis quelque part, on a tous payé pour ça, le vous, moi, et on se dit, quelque part, on perd l'essence même de venir en aide. Et puis souvent, je me dis, on choisit pas d'être amputé, hein, c'est quelque chose qui arrive ça par accident. Puis je me dis, si vraiment, là, il y avait une malversion ou une idée là, croche derrière la personne amputée d'avoir une prothèse de plus haute technologie, ce qui n'est vraiment pas le cas, je me dis, on est-tu en train de chercher une puce ou un pouls alors qu'il n'y en a même pas? On est en train de prêter mauvaise intention à une personne qui souffre d'une amputation.
Alors, j'espère que vous serez entendu par les personnes qui doivent peut-être faire un examen de conscience. Un grand merci à Louis Bourassa, directeur du programme des vainqueurs, les amputés de guerre du Canada. Vous portez bien votre nom, hein, les vainqueurs. Vous avez vaincu.
Merci beaucoup.
À la prochaine.
Merci.
On va faire une toute petite pause et se retrouver d'ici 2 minutes pour la seconde partie de l'émission Le National, animée pour vous par Clotilde Seil sur les ondes de Canal M. Seconde partie, et on va reprendre tout de suite avec un sujet que je connais bien et qui concerne la soirée du 25 septembre prochain. Alors que dans le cadre du Festival international de la littérature, nous allons vous présenter quelques amis, lecteurs, bénévoles et moi-même, une soirée toute spéciale, soirée littéraire et gastronomique dans le noir. Et ce sera au restaurant Au Noir, dans le cadre du 375e anniversaire de la ville de Montréal. Vous aurez l'occasion de faire une dégustation dans le noir le plus total et de déguster aussi des mots sur Montréal qui vous seront lus par quelques amis et moi-même. Je vous propose de réentendre une entrevue que j'ai faite dans le cadre de M l'été. C'était le 7 septembre dernier avec Jacques Tremblay, qui est bénévole à Vues et Voix, qui est aussi l'instigateur du souper littéraire Dégusté à l'aveugle. Bonjour Jacques Tremblay.
Bonjour Clotilde Saïd.
Jacques, avancez-vous un petit peu, là vous êtes un petit peu loin du micro. Jacques, on vous entend, on vous connaît bien dans le cadre de mon émission des livres plein les oreilles. On vous connaît peut-être un petit peu moins à l'extérieur de ce contexte littéraire-là, mais c'est dans un contexte littéraire que je vous invite. Parce que vous êtes l'initiateur d'une... Vous avez eu un jour cette excellente idée que vous allez nous raconter, de dire tiens, bon. Comment on pourrait attirer l'attention des gens sur Vues et Voix, sur le fait que des livres, on en a plein les oreilles, des livres, ça se lit à voix haute.
Moi, je suis je fréquente, hein, je suis un festivalier, peut-être pas intensif, mais régulier, du Festival international de la littérature.
Voilà, donc le fameux FIL.
C'est l'événement annuel organisé depuis une trentaine d'années, notamment par Michel Corbeil, que vous aurez l'occasion d'accueillir à un autre moment. Dans un autre contexte. Alors moi, je sais ce qui se passe dans ce festival-là et on pourrait dire la présentation type, ce sont des comédiens, par exemple, ou des auteurs qui sont invités à lire leur œuvre ou des extraits de leur œuvre qui est goûtée par les amateurs de littérature. Parfois, c'est des primeurs, d'autres fois, c'est des classiques, mais c'est toujours le même principe de personnes qui reçoivent un spectacle avec leurs yeux et leurs oreilles.
Oui.
Et je me suis dit, pourquoi ne pas recevoir ce spectacle-là, mais sans les yeux, à la manière des usagers de Vues et Voix, c'est-à-dire ceux qui lisent avec leurs oreilles.
Ben oui.
Et donc, ça n'avait jamais été proposé dans le cadre du Festival international de la littérature. Et autre chose qui n'avait jamais été proposée, c'est d'associer la littérature à la gastronomie,
parce que
de la même façon que la présentation type, c'est des personnes qui écoutent des gens qui lisent leurs œuvres, très souvent, c'est assorti d'un accompagnement musical ou d'une création musicale.
Oui,
alors, donc, il y avait musique et littérature systématiquement associées avec mise en scène au festival. Et je me suis dit, nos usagers ne pourront jamais bénéficier de ça. Et donc, le public ne saura jamais de quelle façon nos usagers profitent de la littérature. Alors, on va essayer d'associer gastronomie et littérature à la manière de nos usagers, c'est-à-dire à l'aveugle.
À l'aveugle, voilà.
Et c'est ainsi qu'est venue l'idée de pourquoi pas inviter les Montréalais, enfin, les Québécois en général, les festivaliers, à vivre cette expérience-là de goûter la littérature avec uniquement leurs oreilles, et compenser l'absence de vision par de la bonne bouffe.
Par de la bonne bouffe, exactement. Précisons tout de suite, quand et où au restaurant au Noir, on l'a dit, mais c'est quelle date?
Le 25, le lundi.
Le lundi 25
septembre. Le restaurant au Noir est situé sur la rue Prince-Arthur, qui a été une rue piétonnière très fréquentée pendant des années, qui a été un petit peu abandonnée, relâchée,
mais qu'on revitalise en ce moment.
Et le restaurant au Noir est localisé, pour ceux qui ont mon âge et qui ont fréquenté Vol de nuit, une espèce de bistrot-bar qui était...
Vous alliez vous perdre.
Sans doute, là. Alors, c'est assez étrange que le restaurant au Noir se soit installé là où était le Vol de nuit.
Le Vol de nuit.
Parce que, bon, alors, il s'agit de manger dans l'obscurité. Et le restaurant au Noir... fait travailler des serveurs qui sont aveugles à hauteur de 90%. Là. Autrement dit, c'est des quasi-aveugles.
Oui.
Mais quand on a 5 à 10% de vision, c'est rare qu'on peut trouver du travail dans le domaine de la restauration. Le restaurant Noir leur offre cette possibilité. Et ils ont accepté de mettre leur système de son au service de nos lecteurs et lectrices.
Voilà. Alors, justement, les gens qui nous écoutent et qui ne se sont pas encore rués sur cette activité merveilleuse, comment ça va se passer?
Ben, c'est très simple, ils vont se présenter au restaurant. D'abord, ils ont à réserver.
D'accord.
Donc, comme dans tout bon restaurant, il reste quelques places.
Ils réservent au restaurant
Noir? Non, à Vues et Voix.
À Vues et Voix.
Il fallait centraliser la...
Quelque part, bien sûr.
La réservation. Donc, Vues et Voix enregistre, encaisse et émet des billets, un petit peu comme quand on va au spectacle. Donc, ils se présenteront le soir du 25, autour de 6h30-7h, feront leur choix de vin, parce qu'ils auront préalablement fait, au moment de l'inscription, le choix du menu.
Okay.
Alors, il y a trois menus de proposés, un de viande, un de poisson et un de surprise. parce que le chef là-bas fait des surprises systématiques, tous les soirs. Donc, ce sera une surprise qui pourrait être végétarienne, soit dit en passant.
Oui, le mot me venait évidemment maintenant. C'est difficile
poisson,
à éviter.
Un poisson, une viande et...
Et l'incontournable, le plat végétarien.
Il y aura un plat végétarien.
D'accord.
Et puis, à ce moment-là, c'est une question de confiance. Ce restaurant a une très bonne réputation.
Oui, absolument. C'est n'importe quoi. Les gens vont s'installer, ils auront choisi leur menu.
Oui.
Ils seront dans le noir le plus total.
Oui. Et la thématique de la soirée a quand même été arrêtée.
Alors,
donc, c'est Montréal, les 375 ans de Montréal.
Oui.
Et les textes qui ont été choisis l'ont été en fonction d'une espèce de cheminement historique sur Montréal, à commencer par Jacques Cartier, ce cher ami.
Lorsqu'il l'a découvert,
qui s'est pointé là,
c'est ça,
en 1435, quelque chose comme ça.
Il aurait
ça.
Pu aller du côté des cocotiers, mais bon, il s'est gouré. C'est pas grave, tant pis.
Et ça va de pair avec le film Hochelaga, qui va prendre l'affiche en septembre.
Qui est merveilleux d'ailleurs, absolument.
Donc, on commence à Hochelaga. On continue avec Maisonneuve, mais surtout Jeanne Mance.
Oui.
Alors, Jeanne Mance, que Monique Proulx a comme incarné à l'intérieur de son dernier roman sur à peu près 10% de son roman, c'est comme Jeanne Mance qui parle et qui raconte.
Oui.
Et ça dit des choses tellement, tellement belles à propos de sa relation avec les communautés amérindiennes, sa relation avec les premiers colons.
Bien sûr.
Et sa relation avec Paul.
Avec Paul de Chomédé.
Oui.
Mais alors, est-ce qu'ils ont... Enfin bon, ça, c'est une autre chose. Ça va, c'est pas... Voilà, on n'était pas là. Hein?
Mais c'est savoureusement raconté par
Benis Proulx. Une merveille. Oui.
Et puis, on saute dans le temps et puis on a des textes coquins qui ont été faits un siècle plus tard, évoquant un siècle plus tard, à une époque où on ne savait pas que les maisons closes allaient éventuellement éclore.
Éclore.
Une maison close, ça éclot, évidemment.
Oui. Ne m'appelez pas clos aujourd'hui, je ne le prends difficilement.
Elle est bonne, celle-là.
Oui, écoutez, vous saviez combien de temps vous me le faites. Et alors, Madame
Et puis, on arrive au 20e siècle.
Oui, le 20e siècle.
Moment, on va arriver
au 20e
siècle.
Il y en a beaucoup, il y a des poètes,
avec,
il y a...
Écoutez, il y a l'incontournable... Gabriel Leroy.
Gabriel Leroy, bien sûr.
Et là, il y a...
Bonheur d'occasion, tout ça.
Oui, et puis donc, un très, très bel extrait de Bonheur d'occasion. Et l'incontournable aussi, Yves Beauchemin, qui, à un moment donné, il y a eu le Matou, mais il y a eu beaucoup d'autres textes. Alors, il fallait choisir des textes qui traitait Montréal comme un personnage.
Exactement.
Et dans ce sens-là, on aurait pu prendre Michel Tremblay.
Oui, aussi.
Il y aura peut-être des airs de Michel Tremblay, mais c'est Montréal comme acteur. Personnage où on a découvert des textes très précieux.
Alors donc, les gens vont manger, souper. Entre deux services, ils vont avoir droit à ces lectures. Donc, ils vont déguster la lecture autant que la nourriture. Qui sont les lecteurs?
Les lecteurs sont les lecteurs bénévoles et anonymes de Vues et Voix.
D'accord.
Mais pour les fins de ce festival, il fallait les nommer. Alors,
d'accord.
Les choix ont porté sur une voix masculine grave, celle de Michel Keble, qui était bien connue des
la voix de Radio-Canada.
D'Espace Musique, en tout cas. Et une voix un peu plus ancienne, mais plus légère, plus éthérée, celle de Gilles Dupuis.
Oui.
Chez les femmes, il y a une jeune néophyte là, du nom de Clotilde de Sey.
Ah une jeune qui débute, parce que ça vous prenait une voix grave aussi.
Oui, c'est ça. Puis il y a une vétérane,
la
personne de Béatrice Picard.
Une petite jeune qui débute aussi, Béatrice Picard.
C'est la petite nouvelle.
C'est la petite nouvelle.
Mais tout ça fait quatre lecteurs lectrices. Moi, je vais faire les enchaînements.
Vous allez faire les enchaînements.
Oui, parce qu'il faut voir venir.
Bon, il fallait lier la mayonnaise et ça, c'est Jacques Tremblay.
Voilà, et je vais essayer de faire ça le plus simplement possible.
Et nous avons une marraine, bien sûr.
La marraine, c'est Claudia La Rochelle.
Bon, qui elle est la marraine de Vues et Voix, c'est ça.
Porte-parole de Vues et Voix. Et je pense que vous la rencontrerez lors d'une prochaine émission. Et elle se fera entendre aussi, fera la promotion de l'événement où elle le fera connaître. On attend une centaine de personnes.
Ben oui.
Alors, pour l'instant, c'est de façon régulière, les gens qui ont pu être informés de ça se sont inscrits.
Oui.
Ceux qui nous entendent peuvent.
Oui, par téléphone, on appelle ici.
Et
chez
c'est surtout pas cher.
Non, c'est ça.
C'est surtout pas
cher.
C'est combien
pour
50
tout ça?
$50. Ça, c'est taxe et services inclus.
En plus.
Pour un repas à trois couverts de gastronomie fine.
Là. Absolument.
C'est pas, exactement. C'est pas basique.
Et là. De littérature fine.
Et de littérature fine, aussi. Avec cet accompagnement musical qui a été savamment orchestré par la personne que vous avez en vous-même.
Oui, certes. Mon ami, effectivement. Oui, parce que ça me paraissait important aussi.
Voilà.
Que musicalement, il y ait un...
Des liens.
Un encadrement et des liens.
Habillage, c'est ça que vous avez
dit? Un habillage sonore. Un habillage sonore.
Pardon, un habillage sonore.
Mais tout ça pour vous dire, mesdames et messieurs, parce que c'est vrai que je suis dans le coup, mais peu importe, parce que ce qui est important, c'est cet événement-là. Venez en grand nombre, ça va être fantastique. Moi, mon rêve, c'est qu'on refuse du monde et qu'on soit obligé d'en faire une autre.
Ah, on est prêt, on a déjà un programme pour un autre.
C'est vrai?
Oui.
Ah, bravo Jacques. Jacques Tremblay, je voudrais aussi vous dire que l'émission des livres plein les oreilles du 14 septembre prochain sera entièrement consacrée d'une part au Festival international de la littérature de Montréal qui va ouvrir ses portes à partir du 22 septembre, si mes souvenirs sont bons, et sera également en partie consacrée à cette soirée littéraire de dégustation littéraires et divines au niveau de la consommation gustative au restaurant au noir présenté pour vous par Vues et Voix et le Festival international de littérature le 25 septembre prochain. Venez nombreux. Merci Jacques Tremblay.
Ça m'a fait grand plaisir.
Que l'amour a besoin de lumière un peu tous les jours comme une fleur dans la terre.
Il dit bien dommage qu'il n'ait pas le pouce vert, qu'il aime l'herbe sauvage qui pousse au grand air.
Elle dit qu'elle demande si peu pourtant, un brin de romance tressé dans le temps.
Il dit qu'il voudrait, mais que c'est pas dans lui, et qu'elle le savait quand elle lui a dit. Voyage et les grands murs blancs.
La rentrée scolaire et les difficultés d'apprentissage, c'est peut-être un sujet qui vous tient à cœur. Dans le cadre de M l'été, alors que je l'animais, le 5 septembre dernier, j'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir avec Madeleine Fauteux, qui est orthopédagogue et conseillère pédagogique à l'Institut des troubles d'apprentissage. Madame Fauteux, qui a répondu aux questions que les parents se posent régulièrement au sujet des difficultés de leur enfant en ce début d'année scolaire. Madame Fauteux qui va nous dire de plusieurs façons plutôt qu'une, surtout informez-vous, surtout prévenez la directrice si vous sentez qu'il y a peut-être un problème d'apprentissage, si vous avez le moindre doute au sujet de votre enfant. Et en studio encore avec cette fois-ci Madeleine Fauteux. Madeleine Fauteux est orthopédagogue, elle est conseillère pédagogique ou du moins personne ressource dans le domaine à l'Institut des troubles d'apprentissage. Bonjour Madame Fauteux.
Bonjour.
Alors écoutez, je suis ravie de vous avoir aujourd'hui en studio. On sait que c'est septembre, c'est la rentrée et qui dit rentrée ben dit la rentrée de son lot de problèmes aussi, éventuellement de solutions. Nous, on va s'intéresser à un problème peut-être, et je suis convaincue qu'il y a des parents qui vont dresser l'oreille en ce moment. Si on a un enfant, hein, alors que la rentrée sonne, là, si on a un enfant dont on soupçonne qu'il a des troubles d'apprentissage ou s'ils sont confirmés, que doit-on faire en premier, Madame Fauteux?
Évidemment, on va partir, on dit qu'on est une nouvelle année, un nouvel enseignant, peut-être un nouveau directeur et peut-être ouais. aussi une nouvelle école. Alors, on va partir sur une note, disons, positive. On va demander, en tant que parent, qu'il y ait un plan d'intervention, mm-hmm. donc d'établir un plan d'intervention.
D'accord.
Il se peut qu'il y ait eu un plan d'intervention l'année précédente,
okay.
mais c'est nécessaire de demander une rencontre parce que le plan d'intervention, c'est évolutif, évidemment, puisque mm-hmm. l'enfant évolue, son apprentissage évolue, les gens autour de lui, ce ne sont plus les mêmes personnes. Souvent, en tant que parent, on attend d'être convoqué, mm-hmm. on attend d'être invité. Mais moi, je dirais qu'on peut être aussi proactif et demander à la direction d'école, bien évidemment, parce que c'est la direction d'école qui est responsable.
Bien sûr.
Une date précise.
Une date, simplement, d'accord.
Tout simplement.
Pour une rencontre. Hein,
pour
donc,
une rencontre.
Voilà, pour penser à un plan d'intervention qui sera toujours personnalisé. Donc, chaque enfant avec un trouble d'apprentissage, va avoir un plan d'intervention évidemment différent de son petit voisin de classe. Là.
Évidemment. Alors, mm-hmm. Dans le plan d'intervention, c'est plus qu'un document légal.
Oui.
C'est quand même un document, c'est quand même... Le plan d'intervention est prescrit par la loi de l'instruction publique quand même, mm-hmm, l'article mm-hmm, 96-14, je crois. Alors, peu importe, oui. mais c'est plus qu'un document légal. C'est une démarche auquel on s'assoit tous autour de la table. Mm-hmm. Le parent est invité, si c'est possible, l'enfant aussi.
D'accord.
Alors, l'enseignant et les différents intervenants scolaires qui vont travailler mm-hmm. avec l'élève.
Oui.
Et on met en commun les moyens.
Oui, oui, oui. Qu'on pourra mettre en œuvre hein, pour aider cet enfant-là, bien sûr. Et ça, c'est avant même que le diagnostic soit posé. Ça veut dire dès que les parents ont déjà un doute. C'est bien ça, Madame Fauteux.
On n'a pas besoin. Présentement, le ministère de l'Éducation est dans une approche non catégorielle. Mm-hmm. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une évaluation, un diagnostic pour nécessairement bénéficier d'un plan d'intervention.
D'accord.
Donc, si mon enfant a des difficultés persistantes, il résiste, il n'évolue pas mm-hmm. au même rythme que les autres, mm-hmm. alors je vais voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place.
D'accord.
À l'école.
Parce que ce qu'il
classe.
Faut, c'est évidemment que ce plan-là existe le plus rapidement possible. S'il arrive tard en saison, j'imagine que ça sert un petit peu à rien, quoi. C'est bien ça, Madame Fauteux?
Évidemment, le plus tôt possible. Mm-hmm. C'est certain que la période de septembre est une période ou très active à l'école, mais quand même, il faut, il faut y aller avec une façon de procéder pour activer, pour que ça soit fait dans les délais raisonnables.
Mais quand on voit le nombre grandissant d'enfants aux prises avec des troubles d'apprentissage, est-ce que chaque école a les reins assez solides pour mettre en place toutes ces rencontres avec les parents? Parce que ça prend du temps, ça prend de l'énergie, tout ça, ça prend... On y parvient? Avancez-vous un petit peu, madame, voilà.
D'accord. Évidemment, ça prend une logistique.
Oui, c'est alors, ça qui doit être assez importante.
Hein? Il faut une préparation au plan d'intervention. Le parent peut se préparer au plan d'intervention. Les intervenants peuvent se préparer aussi. Alors, dans un délai raisonnable, on doit, autour de la table, c'est sûr qu'il faut avoir une... que le plan d'intervention, que ce soit une rencontre dirigée pour ne pas partir sur des angles différents.
Bien
alors,
sûr,
il faut être, pour que ce soit concerté, dirigé, on va parler des forces d'un élève, parce que c'est souvent ces forces-là qui sont des portes d'entrée. On va parler de ses besoins, de ses défis, des moyens qu'on va mettre en place. Alors, il y a des moyens qui peuvent être des services, mais il y a des moyens qui peuvent être des moyens qui vont donner, si on peut dire, qui vont aider l'enfant au niveau de son estime, tout en l'aidant au niveau de ses apprentissages.
De ses apprentissages aussi. Comment on peut savoir concrètement si un enfant a des problèmes de troubles d'apprentissage ou pas? Quels sont les signes qui peuvent alerter un petit peu sa famille, ses proches?
Ce sont des enfants qui sont intelligents et souvent très intelligents, et leur rendement scolaire ne correspond pas à ce qu'on connaît de l'enfant. C'est un enfant qui est débrouillard, qui se débrouille souvent dans la vie et tout ça, mais lorsqu'il est en face, assis à son pupitre, il n'arrive pas à actualiser son potentiel. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'actualise pas? C'est pourtant un enfant qui me semble brillant, intelligent, qui débrouillard.
Il n'arrive pas à se concentrer?
Ça peut être un problème, ça peut être un problème qui est dû à son attention. Ça peut être un problème qui est dû à problème d'apprentissage. À l'Institut des troubles d'apprentissage, on soutient ces enfants-là aussi, les enfants et leurs familles. Alors, ça peut être beaucoup... Il peut y avoir beaucoup de variables qui peuvent expliquer ça. Dyslexie, dysorthographie, troubles de l'attention, bref, et bien d'autres.
Un enfant lunatique aussi.
Troubles associés, exactement.
Alors, tous les enfants ont accès à ce que vous appelez quoi, un PI, un PI, c'est ça?
Un plan d'intervention.
C'est ça, un plan d'intervention. Tous les enfants ont le droit à ça dès l'instant que les parents le demandent, bien sûr.
En fait, ce sont les enfants qui sont handicapés ou en difficulté.
En difficulté, d'accord. Alors, donc, le processus, on en a parlé. Ce que vous avez finalement à nous dire et ce que nous devons retenir, c'est que si vous avez, parents en ce moment, qui nous écoutez le moindre doute sur une possibilité de difficulté d'apprentissage envahissant pour votre enfant, c'est d'aller tout de suite en aviser peut-être l'école pour pouvoir mettre sur pied ce plan, même si l'enfant n'a pas été diagnostiqué. C'est bien ça, madame Fauteux.
L'erreur, ce serait d'attendre qu'il y ait un diagnostic et de ne pas mettre en place tout de suite les moyens, les stratégies qui seraient aidantes.
Et il y a sur le site du ministère de l'Éducation, les gens peuvent s'informer, je crois, justement, s'ils ont des doutes ou si...
Il y a plusieurs documents officiels qui parlent du plan d'intervention.
D'accord. Donc, ça, ce sont vraiment des documents aussi concrètement qui donnent concrètement des indices aux parents par rapport à l'attitude de leur enfant. C'est bien ça?
Oui. Si les parents ont des questions directement, ils peuvent toujours téléphoner à l'Institut des troubles d'apprentissage.
D'accord.
C'est au 514-847-1324. Mon poste, c'est le poste 230, mm-hmm, ou parler à une autre personne ressource aussi.
D'accord.
Alors, on peut, nous, dans notre mandat, c'est souvent de soutenir le parent, l'aider à se préparer à la rencontre du plan d'intervention pour que ça soit une belle rencontre, une rencontre d'équipe, une rencontre où chacun met
L'épaule à la roue, comme on dit, c'est ça. Le but étant de faire en sorte que ce gamin-là, puisque chaque enfant est personnalisé là, puisse s'en sortir, quoi, malgré ces troubles-là.
D'accord.
Madame Fauteuil, bien écoutez, merci infiniment. Je vais redonner le numéro de téléphone que vous avez donné un petit peu plus tôt. C'est celui de l'Institut des troubles d'apprentissage dans le 514, le 847-1324. 847-1324, le poste 230. Sinon, si vous allez sur Internet, si vous faites Institut des troubles d'apprentissage, vous allez avoir aussi beaucoup d'informations. Mais la première information à retenir, c'est si vous avez un doute, n'attendez pas, parlez-en à votre école et au directeur de l'école. Merci beaucoup, Madame Fauteuil, d'avoir répondu à nos questions.
Ça m'a fait vraiment plaisir.
Au revoir, madame. Voilà, ainsi s'achève cette émission, le National, que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter cette semaine sur les ondes de Canal M. Vous savez, une émission comme celle-là, ça n'a l'air de rien, mais ça en prend du monde pour qu'elle vous parvienne jusqu'à vos oreilles. Alors, merci à toute l'équipe qui rend possible cette émission-là. J'ai nommé Sylvie Rivard, Kevin Breton, Louise Vien, Mathieu Tessier, Jean-Sébastien Laliberté, Christiane Campagna, Hélène Denis, Benoît Rassette. Autrement dit, toute l'équipe de Canal M met la main à la pâte pour ce National hebdomadaire. Alors merci à vous toutes et à vous tous de nous écouter. C'était Clotilde Seille au micro de Canal M qui vous rappelle que si vous désirez plus d'informations ou encore si vous désirez écouter ou réécouter ces émissions et ces entrevues, il vous suffit de visiter canalm.vusezvoix.com. Comme ce n'est pas parce que vous ratez une émission en direct que vous l'aurez ratée pour de bon. Hein. Vous pourrez y revenir et y revenir encore autant de fois que vous le désirez. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.